Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Ça fait un an, jour pour jour, qu'on avait organisé, enfin, qu'était organisé à Fontainebleau, un hommage à Hubert Damisch, qui était récemment disparu. Et l'idée, c'était de revenir sur la question du rêve dans le travail de Hubert Damisch. Donc, j'intervenais avec deux historiens d'art, qui sont Jérémy Koering et Cassegrain. J'ai oublié son prénom. Koering et Cassegrain, voilà. Et une des grandes avancées de l'histoire de l'art de Damisch, qui a disparu en 2016, c'était d'avoir probablement ouvert l'iconologie à la question freudienne et à la question de l'inconscient. Alors, on avait parlé, il y a un an, on avait parlé de la question du rêve dans l'œuvre de Damisch. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais plutôt parler après Hubert Damisch et dans mon petite conférence, évidemment, les apports de ses recherches et de ses travaux seront transparents pour ceux qui les connaissent. Alors, le dessin, pour moi, c'était plutôt une vieille histoire, hein. Je me suis plutôt occupé des films depuis un certain nombre d'années, donc je m'occupe de la collection des films au Centre Pompidou. Mais quand je suis arrivé au centre, c'était en 2006, si j'ai bonne mémoire, j'ai fait une exposition qui était une exposition de dessin, hein, qui s'appelait Comme le rêve, le dessin, et qui était en deux lieux. Hein, c'était organisé avec le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou, et puis le cabinet de dessin du musée du Louvre. Donc il y avait une partie deux parties. En fait, c'est une exposition en diptyque qui se déroulait à la fois au Louvre et à Beaubourg. Donc aujourd'hui, je reviendrai un petit peu sur cette exposition. Enfin, je ne parlerai pas d'exposition, mais plutôt je servirai du matériau que j'avais mobilisé pour l'exposition. Et ce sera une manière de à la fois en pensant à Hubert et puis en pensant à cette exposition, de faire ressurgir des bons souvenirs. Bon, je vais faire le tour pour pouvoir monter. Alors ça, c'est un dessin de célèbre de Albrecht Dürer, qui déclarait que dans ses rêves, il produisait des œuvres magnifiques dont le souvenir le quittait dès qu'il se réveillait. Mais pourtant, à une occasion, en 1525, il devait se souvenir de son rêve, une scène de déluge, dans lequel il vit, dit-il, une immense quantité d'eau se déverser du ciel, et dont l'impression, dit-il encore, le laissa tout tremblant. Alors, je vous traduis le texte qui est inscrit en dessous du dessin et qui correspond très exactement, qui épouse la distinction relevée par Freud entre l'image du rêve et le récit du rêve. Alors, le récit, c'est celui-ci. En l'an 1525, dans la nuit du mercredi au jeudi, faisant suite au dimanche de la Pentecôte, je vis, pendant mon sommeil, cette image d'un grand nombre de colonnes d'eau tombant du ciel, certaines plus éloignées, d'autres plus proches, mais toutes venant de si haut que les eaux semblaient couler lentement. La première touche à terre à environ 6 km de moi, avec une force terrifiante, un bruit et une clameur formidables, noyant tout le pays. Je me réveillais tellement effrayé que tout mon corps tremblait, et pendant un long moment, je ne pus reprendre mon calme. Aussi, quand je me levais, je peignis ici ce que j'avais vu. Dans les traînées liquides qu'il peignit au matin à l'aquarelle, se trouvait fixée, paradoxalement, la trace du déluge. Donc, il fixe la trace d'un écoulement. Et peut-être ces traces d'aquarelle sont-elles celles du processus même d'élaboration conçu comme flux, comme déperdition. Sigmund Freud, dans le deuxième chapitre de l'interprétation des rêves, cite une lettre de Schiller, Friedrich Schiller, donc le poète, à son ami Körner, qui se plaignait de sa difficulté à écrire. Dans sa lettre, Schiller esquisse une théorie de la création comme prise en charge de ce mouvement des pensées auquel la tradition classique a réservé le nom d'inspiration. Alors je cite Schiller, il me semble que la racine du mal est dans la contrainte que ton intelligence impose à ton imagination. Je ne puis exprimer ma pensée que par une métaphore. C'est un état peu favorable pour l'activité créatrice de l'âme que celui où l'intelligence soumet à un examen sévère, dès qu'elle les aperçoit, les idées qui se présentent en foule. Une idée peut paraître considérée isolément, sans importance et en l'air, mais elle prendra parfois du poids grâce à celle qui la suit. Liée à d'autres, qui ont pu paraître comme elle décolorée, elle formera un ensemble intéressant. L'intelligence ne peut en juger si elle ne les a pas maintenues assez longtemps pour que la liaison apparaisse nettement. Dans un cerveau créateur, tout se passe comme si l'intelligence avait retiré la garde qui veille aux portes. Les idées se précipitent pêle-mêle, comme le déluge dans le dessin de Dürer. Les idées se précipitent pêle-mêle et elles ne les passent en revue que quand elles sont, une masse compacte. Vous autres critiques, ou quel que soit le nom qu'on vous donne, vous avez honte ou peur des moments de vertige que connaissent tous les vrais créateurs et dont la durée, plus ou moins longue, seule distingue l'artiste du rêveur. À la faveur d'un abaissement du contrôle de ce que Schiller nomme l'intelligence et que Freud nommerait le surmoi, les pensées insignifiantes, décolorées, dit Schiller, décolorées comme les touches d'aquarelle employées par Dürer, donc les pensées insignifiantes, décolorées, surgissent en un mouvement vertigineux dans la conscience de l'artiste, comme elles apparaissent au rêveur dans son sommeil. La création serait donc un rêve prolongé, la ressaisie d'un flux vertigineux qu'il revient à la psyché d'organiser, un flux qui traverse le sujet, mais dont le sujet n'est pas l'origine. Peut-être ce vertige était-il ce que Freud cherchait à discerner dans le Moïse de Michel-Ange qu'il venait voir presque chaque jour à Saint-Pierre-aux-Liens lorsqu'il séjournait à Rome à partir de 1901, essayant de comprendre, s'appuyant sur la méthode d'analyse du détail élaborée par Morelli, de Giovanni Morelli, qu'il rapprochait de la technique psychanalytique, donc cherchant à comprendre, au-delà de la fixité de la sculpture, les mouvements de l'index du prophète enroulé dans sa barbe, que vous pouvez apercevoir ici. Mais il y a une copie de Després en bronze au musée Calvet. Vous pouvez regarder de plus près le mouvement de l'index à l'intérieur du tourbillon de la barbe du prophète. Dans les premières lignes de l'étude qu'il consacre à la sculpture de Michel-Ange, en 1914, Freud se déclare plus intéressé par la signification des œuvres que par leur qualité technique ou formelle, et, dans une lettre à Ernst Jones, après avoir passé une soirée avec des peintres à l'époque précisément où il étudiait l'œuvre de Michel-Ange, il exprime son irritation envers l'histoire de l'art formaliste, et probablement visait-il les disciples de Berenson, et dit « La signification a peu d'importance pour ces gens, tout ce qui les intéresse, c'est la ligne, la forme, la qualité des contours. » La signification de l'œuvre, pour Freud, était donc ce vertige, ce pouvoir de transformation qui l'a fait échapper à l'ordre des formes finies et qui le poussait à penser la signification comme un déplacement. Suivant les traces d'Hubert d'Amiche, Daniel Arras, dans « Le sujet dans le tableau », développant le concept d'une iconographie analytique, revisite le schéma de l'iconologie traditionnelle qui explore la dimension discursive de l'image à la lumière de la notion de travail du rêve, entendu comme transformation d'un récit en figure. Alors je cite Arras, « Les concepts et la méthode qui orientent l'interprétation freudienne des rêves constituent, pour l'histoire de l'art, un remarquable outil, car la peinture classique travaille, elle aussi, à transformer un récit en figure. » Alors cette inflexion de l'analyse, si elle élargit le champ de l'iconographie en l'ouvrant à l'hypothèse de l'inconscient, et si elle prend acte du scénario de transformation qui marque le passage à l'ordre du visuel, le passage du texte au visuel, donc cette inflexion laisse intacte l'origine discursive des formations d'image, c'est-à-dire le texte auquel, en dernière instance, celles-ci viennent se rapporter. Mais peut-être la relation entre le texte et l'image est-elle pensable autrement? Non pas comme un rapport de traduction, mais de transformation, de déperdition, qui fait agir dans l'image une puissance de retour ou de régression. Et peut-être est-ce dans le domaine du dessin, et plus spécifiquement dans le domaine de l'esquisse, que l'on voit opérer, avec la plus grande évidence, la force qui émancipe le visuel du régime des significations, c'est-à-dire de sa subordination au texte. Le rêve est un rébus, écrit Freud au commencement du sixième chapitre de l'interprétation des rêves. Nos prédécesseurs ont commis la faute de l'interpréter comme un dessin. Mais si le rêve ne peut s'interpréter comme un dessin, le dessin, en revanche, peut se décrire à la lumière des phénomènes qui s'observent dans les images du rêve, comme une opération de transfert généralisée où se trouvent mobilisées les quatre grandes opérations que Freud distingue au titre du travail du rêve dans le quatrième chapitre de la Traumdeutung, soit le déplacement, la condensation, la perte des relations logiques, hein, puisque le rêve ignore la négation ou la coordination, et la prise en charge de la figurabilité, c'est-à-dire le fait d'utiliser des images pour construire un discours. Donc Freud disait encore dans la Traumdeutung, dans l'interprétation des rêves, que le rêve ne pense pas, il se contente de transformer. Donc probablement on peut utiliser ce quatrième chapitre de l'interprétation des rêves consacré précisément au travail du rêve pour décrire les opérations qui sont mobilisées dans le travail du dessin. Dès lors que le dessin cesse d'être pensé en termes de signification et s'émancipe des schémas d'interprétation finaliste qui le subordonnent à un ordre des formes constituées, l'idée que le dessin, l'esquisse, conduit vers le tableau, vers la peinture, qui est une sorte de mouvement finalisé qui conduit du premier jet, c'est-à-dire de l'esquisse à la peinture. Donc dès lors qu'on renonce à cette finalisation dans la conception du dessin, celui-ci apparaît comme une collection d'effets non fixés, de mouvements de retour de la figure figurée vers la figure figurante, vers un état expressif plus archaïque ou plus originaire, où les liens logiques se distendent et les images se déstructurent, où l'apparition du sens ne peut plus se penser que comme résistance à son absence. Il revient alors, le dessin, vers cette région que Freud décrit comme un écheveau de pensées se ramifiant en tous sens, sans aboutir, inexploitable par l'analyse, ajoutant que c'est au point le plus épais du tissu formé par l'enchevêtrement de ces pensées, ce point peut-être que le Moïse de Michel-Ange désignait de son index dans les replis de sa barbe, que surgit le désir, comme le champignon, dit Freud, sort de son mycélium. Si l'on ne peut donc interpréter le dessin comme on interprète un rêve, on peut néanmoins le décrire à sa lumière, comme ces rêves insignifiants, enupnioi en grec, faits des accessoires, des à-côtés, et pour ainsi dire des miettes d'un passé ou très récent ou très éloigné, hein, comme pour reprendre les mots de Freud, que les anciens opposaient au songe explicable, l'oneiros, sans porter attention au surgissement de la signification, sinon à la forme que prend ce surgissement. On trouve dans l'interprétation des rêves toute une série de termes pour décrire le détachement de la réalité et la constitution du monde subjectif du rêve. Abkehrung, Ablenkung, Ablösung, Abwendung von der Außenwelt, détournement, diversion, déviation, désinvestissement de la réalité extérieure. Tout terme qui décrivent la constitution du monde propre du rêveur, lequel s'oppose, disait Héraclite, au monde de la veille qui est commun à tous les hommes. Héraclite dit, les hommes éveillés ont un seul univers qui est commun, alors que chacun des dormeurs s'en retourne dans son monde particulier. Pour le rêveur, le flux des sensations n'a pas cessé de s'écouler. Par l'intermédiaire des sens et de son corps tout entier, il cherche encore à organiser un monde, même si la référence à celui-ci ne peut plus prendre forme organisée et transmissible. Comme le rêve, le dessin travaille à la séparation. Mais pas plus que ceux du rêve, ses liens avec la réalité ne sont entièrement rompus. Dans les images du dessin, comme dans les images du rêve, le monde de l'expérience n'a pas disparu, il s'est fragmenté et s'est désorganisé. Certains motifs sont à peine indiqués, d'autres au contraire disparaissent sous la surcharge du trait. Les compositions s'organisent autour d'un détail, tandis que des pans entiers de la feuille sont désinvestis. Walter Benjamin, en ce sens, remarquait qu'un dessin qui couvrirait entièrement la feuille ne serait plus un dessin. Comme le rêve, le dessin est lacunaire. Il doit se maintenir dans un état d'élaboration partielle. Dans le dessin, à partir d'un ensemble de traces disparates, une scène se construit où se rencontrent et fusionnent des données visuelles hétérogènes, non pas sous forme d'entités constituées, mais comme des qualités flottantes. Freud, dans le récit qu'il fait d'un rêve de couleur, au 7e chapitre de l'interprétation des rêves, a décrit ce phénomène de perte d'adhérence des qualités qui s'observe de la même manière dans l'ontologie précaire des images du dessin. Les éléments chromatiques de son rêve se détachent des surfaces qu'il colore pour se présenter à lui de manière quasi indépendante et se trouvent aiguillés par une sorte d'attraction lointaine ou de résonance vers d'autres formations de souvenirs plus distantes. Je cite ce passage de Freud. J'ai mentionné un rêve au cours duquel la couleur bleue sombre de l'eau, le brun de la fumée sortant de la cheminée d'un bateau et le brun ou rouge foncé des bâtiments que je voyais firent sur moi une impression profonde et durable. Les couleurs que je voyais étaient d'abord celles de la boîte de construction avec laquelle les enfants avaient bâti un édifice grandiose le jour avant mon rêve pour me le faire admirer. Il y avait là le même rouge sombre sur les grosses pierres, le bleu et le brun sur les petites. Il s'y joignait les impressions colorées de mon dernier voyage en Italie, le beau bleu de l'Isonzo et des lagunes, le brun des montagnes du Karst. La splendeur colorée du rêve n'était qu'une répétition de celle que j'avais vue dans le souvenir. Dissociation des contours et des surfaces, formation d'images composites dont les éléments sont empruntés à des strates de mémoire plus ou moins anciennes, de la boîte de construction qui sert à l'élaboration du rêve, l'expérience ressurgit en fragments recomposés, soumis à des effets de fusion, de déplacement et de perte, identiques à ceux qui s'observent dans le travail du dessin. On n'a pas assez souligné le primat du visible dans le rêve. Le rêve, c'est ce qui rend visible, donne sa place de visible au déjà vu, devenu invisible. Ça, c'est une citation de J.B. Pontalis, psychanalyste freudien. L'activité productrice d'images qui s'exerce dans le dessin ne renvoie, comme l'énonce Pontalis, à nulle signification préalablement donnée. Elle ouvre la pensée à l'au-delà des constructions usuelles imposées par le langage et donne forme à ce qui ne peut se dire. Qu'en est-il alors du caractère originaire de ces images si ces images ne renvoient pas à un texte? Avançons qu'il tient au caractère régrédient du dessin, c'est-à-dire que le dessin revient en arrière. On pourrait formuler l'hypothèse que l'esquisse, d'un point de vue finaliste, conduit à la formation d'une image, mais que contre cette tendance finaliste s'exerce une contre-tendance qui ramène le dessin en arrière. Le dessin est régressif. Freud désigne, du terme de régression, le passage de la représentation à l'image sensorielle dont elle est un jour sortie, et précise que lorsqu'il emploie ce terme, il ne fait que donner un nom à un phénomène inexplicable. Dans son mouvement de réalisation, le dessin régresse vers des données sensorielles immédiates, engage des procédures qui reviennent en deçà des codes de la représentation mimétique et qui impliquent le corps, vers une région où l'image ne s'est pas encore stabilisée. À la manière du rêve à la surface duquel, lorsque les relations logiques se sont perdues, surnagent, je cite Freud, des fragments tordus et morcelés, réunis comme des glaces flottantes, le dessin étale à la surface de la feuille ses failles et ses crevasses. Et cette analogie n'est pas sans effet sur la manière dont on peut concevoir la temporalité dans le champ de l'histoire de l'art. Parce que le dessin contemporain s'est libéré de toute visée finalisante, il ne reconnaît plus d'étape préparatoire, du moins au sens académique du terme, il nous permet de voir, dans les études et les esquisses anciennes, autre chose que la promesse d'un accomplissement, une mise en question des formes constituées et des lois de cohérence et de stabilité qui les soutiennent. Et ici, je vous montre deux dessins de Joseph Beuys, donc, dans lesquels la figure apparaît comme un effet résiduel du tracé sismographique du crayon. Et ici, c'est un dessin d'un artiste italien du début du XVIIe siècle qui s'appelle Barocci. Et c'est un dessin qui a été réalisé au revers d'une feuille d'étude, et le recto de la feuille est beaucoup plus construit. Très souvent, quand on retourne les feuilles d'étude, au dos des dessins, on trouve des dessins qui sont beaucoup plus convulsifs, beaucoup moins constitués, beaucoup moins contrôlés, et qui donnent à voir cette opération de régression que Freud décrivait à propos du rêve. Mais ce qui est vertigineux, c'est que entre les dessins de Beuys et le dessin de Barocci, la chronologie extérieure vacille. Hein. On n'a plus de repères chronologiques, et probablement il y a une autre chronologie, qui est une chronologie intime, qui vient relayer la chronologie extérieure des œuvres, qui reste le grand repère de l'histoire de l'art. Mais peut-être l'ouverture de l'histoire de l'art à l'hypothèse de l'inconscient permet de mettre en question le schéma d'intelligibilité chronologique de l'histoire de l'art elle-même. Je vous montre un autre dessin de Barocci, donc, qui est un dessin plus constitué, mais dans lequel on peut voir apparaître cette collection d'effets que je décrivais comme tous les moyens par lesquels les artistes dessinateurs exercent ce pouvoir de la régression. En fait, on voit des effets de répétition, d'effacement, de dislocation des contours, de superposition. Et toutes les formes ont l'air de se précipiter ensemble, comme Schiller le décrivait dans sa lettre à Körner. Ce flux d'idées qui assaille l'écrivain, et auquel l'écrivain doit être, que l'écrivain doit laisser advenir, hein, pour pouvoir écrire, peut-être il advient aussi sous forme visuelle dans le champ du dessin. Jacques Lacan, à propos du geste de Matisse tel qu'il apparaît dans un célèbre ralenti filmé par François Campo en 1946, commente ainsi le mouvement de flux et de reflux de la main au-dessus de la toile qui marque le commencement de l'exécution, ou plus profondément, son origine. Je cite Lacan, « N'oublions pas que la touche des peintres est quelque chose qui donne un sens nouveau et différent au terme de régression. Nous nous trouvons devant l'élément moteur au sens de réponse, en tant qu'il engendre en arrière son propre stimulus. » Donc il y a une sorte d'inversion du processus. C'est le geste engendre sa propre cause. C'est là ce par quoi la temporalité originale, par où se situe comme distincte la relation à l'autre, est ici, dans la dimension scopique, celle de l'instant terminal. Ce moment terminal est ce qui nous permet de distinguer d'un acte un geste. C'est par le geste que vient sur la toile s'appliquer la touche. Et il est si vrai que le geste y est toujours présent, qu'il n'est pas douteux que le tableau est d'abord ressenti par nous, ainsi que le dit le terme d'impression ou d'impressionnisme, comme plus affine au geste qu'à tout autre type de mouvement. Alors on peut regarder ce ralenti filmé par François Campo en 1946. C'est un extrait d'un documentaire sur Matisse, donc l'extrait dure à peu près 3 minutes, et je vous commenterai. Là, on voit très bien dans ce ralenti qui fascinait Lacan que la figure est comme un résidu du mouvement de la main qui se pose quelquefois sur le papier, qui touche le papier avec le pinceau, mais qui danse au-dessus du papier qui l'effleure sans le toucher. Le geste suspendu, hésitant de la main de Matisse au-dessus de la toile, n'a pas d'aboutissement hors de lui-même, et se projette en tous sens, en un lacis de traits, avant même que la première marque soit posée, comme un rituel d'effacement. Il est le renoncement à l'action, fait expressivité. Peut-être ce que Lacan appelait un geste, c'est ce renoncement à l'action, fait expressivité. Je me suis senti déculotté, nu parmi l'assistance, dira Matisse à la vision de sa main filmée par Campo flottant au-dessus de la feuille. Mais c'était une inoubliable leçon pour moi. J'ai été bouleversé par le ralenti. Quelle chose étrange. Soudain, on voit le travail de la main, tout à fait instinctif, surpris par la caméra et décomposé. Cette séquence m'a consterné. Je me suis demandé tout le temps. Mais est-ce bien moi, est-ce bien toi qui fais ça? Que diable puis-je faire en ce moment? J'ai été sans repère. Je ne connaissais ni ma main, ni ma toile. Et anxieux, je m'interrogeais. Va-t-elle s'arrêter? Va-t-elle continuer? Quelle direction va-t-elle prendre? J'ai été stupéfié de voir ma main continuer encore et encore, jusqu'à un point final. D'habitude, lorsque j'entame un dessin, j'ai le trac, sinon l'angoisse. Mais je n'ai jamais eu autant la frousse qu'en voyant au ralenti ma pauvre main aller à l'aventure, comme si j'avais les yeux fermés. Donc, c'est-à-dire comme si je travaillais en dormant. Ce geste à la vision duquel, après coup, Matisse confessait sa gêne, ne fait que dramatiser la perte d'orientation initiale, le brouillage des repères qui précède et prépare le mouvement de réversion ou le dessin, bouleversant les chronologies, mettant en question la notion même de style, s'accomplit dans le refus de son achèvement même. Dans la série des thèmes et variations, un ensemble de 158 dessins répartis en 17 séries auxquels, alité, il travaille entre 1941 et 1942, Matisse fait l'expérience, jubilatoire cette fois, de la désorientation. Les variations sont exécutées librement à la plume ou au crayon sur un thème initial, portrait ou nature morte, exécutées ordinairement au fusain. Ces dessins, confiera Matisse à Gaston Dille, sont comme le résultat d'un prodigieux acquis qui se forme inconsciemment en moi. Je les sens jaillir de mon être intérieur comme un grand éclat de rire. Et il revient en ces termes sur le processus d'élaboration de la série. Quant à la confection de mes dessins d'études, mes thèmes, mon action n'est pas encore apparue aussi clairement parce qu'elle est beaucoup plus complexe et très volontaire. Ce « très volontaire » est un obstacle sérieux à la clairvoyance de ce qui compte le plus, parce que ce « très volontaire » empêche l'instinct de surgir en toute évidence. Dans la série H, à partir, donc les séries sont numérotées par des lettres, dans la série H, à partir d'un motif de nature morte dessiné en traits de fusain épais, les variations se déploient, tracées légèrement à la plume, par glissement et déplacement, en une prolifération imprévisible sur laquelle le contrôle de la main a cessé de peser. Je vais peut-être vous montrer la série d'abord. Donc ça, c'est le premier de la série. Le vase de fleurs se dédouble, grandit, les tiges s'allongent, les branches et les feuilles se démultiplient, et l'apparition de la courge sur la cinquième variation, qui progressivement envahit la composition, n'est que l'expansion métonymique du vase qui prend au cours de l'élaboration sérielle une prégnance organique. Quand je dessine, dit Matisse, naturellement, j'essaie de me vider complètement le cerveau de tout souvenir pour ne recevoir que le moment présent. Ça, c'est dans une conversation du 5 octobre 1948. Et le 14 novembre 1950, alors il se fait un vide et je ne suis plus que spectateur de ce que je fais. Mais la question, c'est pourquoi le végétal? La réponse, peut-être, on la trouve dans Aristote. Selon Aristote, durant le sommeil, la partie végétative de l'âme continue de s'accroître indépendamment de la sensation. Si elle accomplit son œuvre à ce moment mieux que pendant la veille, c'est que dans le sommeil, dit Aristote, l'être se nourrit alors et s'accroît davantage, comme s'il n'avait nul besoin de la sensibilité pour cela. Peut-être la métaphore végétale développée dans la série des thèmes et variations traduit-elle à son tour cette mise en sommeil de la psyché qui, dans le travail du dessin comme dans celui du rêve, cesse d'exercer son pouvoir objectivant. Et Matisse revient sur la manière dont l'exercice du dessin suppose un état non de maîtrise mais de disponibilité, une forme de réceptivité où se redéfinissent les catégories de l'action et de l'invention traditionnellement associées à l'impulsion créatrice. « Quand j'exécute mes dessins variations, dit-il, Le chemin que fait mon crayon sur la feuille de papier a, en partie,